Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer Comité 13. Un Français sur 10 aide une personne atteinte de cancer, soit environ 5 millions de personnes qui chaque jour endossent le rôle d'aidant. Christophe Praneuf est l'un d'eux, il se confie à notre micro aujourd'hui. Christophe, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'avoir accepté de vous livrer et ainsi d'aider d'autres personnes se trouvant dans la même situation. Alors je vais vous demander de vous présenter en quelques mots et de nous dire ce qui fait de vous un aidant.
Eh bien, je m'appelle Christophe Praneuf, j'ai 60 ans et ça fait 10 ans que j'aide ma femme qui est malade. Alors c'est vrai, on peut parler des aidants pour les malades, pour les personnes âgées, pour les handicapés. Mais moi, spécialement, ma femme a eu un cancer du sein et c'est vrai que depuis 10 ans, je l'aide quotidiennement à subir cette maladie qui est le cancer du sein.
Alors évidemment, les aidants, vous dites que vous êtes là pour la soutenir, vous n'avez pas vocation à vous substituer aux professionnels de l'aide et des soins, mais les tâches que vous endossez au quotidien sont multiples. Alors cela ne vous concernera pas forcément vous personnellement, mais de manière générale, ça peut être donc un soutien moral, on parlait d'écoute, de présence, d'accompagnement durant les soins, un soutien tout au long du parcours de soins, d'organisation des rendez-vous médicaux, gestion du dossier médical administratif, participation aux soins. Parfois, c'est une aide domestique pour le repas, les courses, l'entretien du logement. Et pour certains, des gestes quotidiens, comme la toilette ou l'habillage. Comment ne surtout pas s'oublier dans ce parcours qui fait de vous des combattants très discrets ?
C'est surtout ça le plus difficile, c'est que moi j'avais un garçon et une fille qui avaient à l'âge de la maladie de ma femme 10 ans et 15 ans. Et c'est un âge, donc l'un rentre dans l'adolescence et l'autre avait 10 ans. Ça a été difficile parce que ce sont des éponges et donc on est obligé de s'occuper d'eux en même temps que de la maladie. Il faut s'occuper de sa famille pour pouvoir lutter contre la maladie. Et le problème, c'est qu'on s'oublie un peu, on pense qu'on est Superman et après on peut le payer au bout de 8 ans. Je l'ai ressenti comme ça. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et à ce moment-là, ça a été une explosion pour moi. J'ai fait un burn-out et je me suis aperçu qu'il aurait fallu que je parle plus tôt.
Donc au bout de 8 ans ?
Oui.
C'est long, c'est très très long. C'est votre corps qui a parlé du coup ?
C'est mon corps qui a parlé, mais surtout mon cerveau, je pense, parce que je pense que j'ai des neurones qui se sont déconnectés et d'un seul coup, c'est en l'espace d'une minute. Hein, le burn-out, c'est ce que ça veut dire, c'est très net, hein, que c'est une cassure. Et c'est vrai qu'on s'oublie, il faut être un peu égoïste, penser à soi, pouvoir se donner un peu de temps, de libre. Alors moi, j'ai entamé ceci en faisant une randonnée, par exemple, tous les mercredis, ce qui m'oblige à me vider l'esprit. Je rencontre des amis à travers ces randonnées dans les Calanques.
Donc en fait, un conseil qu'on pourrait donner à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, déjà, c'est pas d'attendre 8 ans, si possible. C'est d'y penser tout de suite. Malheureusement, voilà, la vie fait que ça s'est passé comme ça pour vous. Comment vous en êtes sorti à ce moment-là ? Quelqu'un vous a-t-il conseillé de vous rendre ici à la Maison Bien-être ? Ou est-ce qu'on vous a dit déjà, commencez par faire de la randonnée, c'est vachement bien, ça va effectivement te vider l'esprit ? Comment ça s'est passé ?
Et en fait, moi, mes enfants et ma femme ont été suivis depuis le début. Et en fait, moi, je ne m'en suis pas préoccupé. Et de fait, ma femme était à la Ligue contre le cancer, mais la Maison Bien-être n'existait pas encore. Et après, je me suis enquis d'un thérapeute, parce que lorsque j'ai fait mon burn-out, il a fallu de l'aide, vraiment une aide psychologique et physique, parce que j'étais au plus mal. Donc, j'ai trouvé une thérapeute dans cette maison. J'ai trouvé des artistes, j'ai trouvé des photos de femmes qui étaient heureuses. J'ai retrouvé la parole parce que on vous sourit, vous avez besoin de rien faire et on vous sourit. Et ça fait du bien parce que quand on est près d'une malade, c'est la maladie qui vous entoure et on ne communique plus beaucoup, ni avec ses parents, ni avec sa famille, ni avec ses collègues de travail. Et ici, ça m'a permis de me libérer d'un poids, de plusieurs poids même, qui s'accumulaient depuis des années. Et je remercie ma thérapeute Amina, qui a eu un podcast juste avant moi et qui est formidable.
Oui, on vous conseille vivement d'écouter ce podcast. Amina, c'est un vrai soleil.
C'est un vrai soleil.
Vous disiez, on a du mal à communiquer avec les proches, la famille, même au travail. Pourquoi ? Parce que tout tourne autour de la maladie ?
En fait, lorsqu'on vous a, lorsqu'on vous dit vous avez un cancer du sein, c'est un tsunami pour la famille. Les parents ne savent plus quoi faire, la famille ne sait plus quoi faire, les amis ne savent plus quoi faire parce que toujours le cancer signifie la mort. Mais il faut lutter, hein. Le cancer du sein, ça se guérit, il y a pas de problème, il y a de plus en plus de protocoles. Ma femme en a fait un récemment et qui venait des États-Unis et qui lui a permis de contrer la maladie. Donc on en guérit, il faut le dire, et les aidants sont là aussi pour pouvoir faire bénéficier de leur soutien moral et physique aussi, parce que entraîner les personnes qui ont eu le cancer, ça permet aussi d'aller se balader, d'aller au théâtre, au cinéma, alors que quelquefois les gens qui sont malades, qui ont le cancer, se restreignent dans la maladie et font comme les autruches et mettent la tête sous le sable.
Alors venir ici à la maison bien-être, on a compris, a priori ça vous fait du bien, c'est devenu presque essentiel, j'ai envie de dire, d'après ce que vous nous racontez.
Oui, bien sûr. Ben, on connaît un peu tout le monde. On fait un peu de la cuisine. Moi, j'ai ma thérapeute. Ma femme a son thérapeute. Elle a le coiffeur qui la coiffe aussi. Ça lui permet d'avoir quelques moments de bien-être. Et c'est une coupure, en fait. Cette maison, ça a été essentiel pour nous parce que ça nous a permis de nous restructurer. Et surtout, lorsque nos enfants sont partis, ma fille a 20 ans, mon fils 25, et tous les deux ont fait des études assez loin, l'une à Belfort d'ingénieur et l'autre à Oxford, pareil d'ingénieur, et ils sont partis en même temps. Et on a eu le coup du nid vide.
Ah oui.
Et là, ça calme un peu. Ça fait... voilà. Donc, on avait la maison bien-être, heureusement. Et j'avais Amina pour me libérer.
Voilà. À Marseille, on dit ça calme un peu. On va peut-être expliciter, c'est...
Ça calme un peu parce que d'un seul coup, on se retrouve seul, désemparé, et on s'occupait de sa famille, de ses enfants, de leurs études, etc. Et là, ils sont devenus autonomes. On n'en se sépare pas vraiment, puisque maintenant, il y a des moyens de communication, hein, mais quand même, la séparation doit se faire parce que ils sont devenus des adultes, autonomes, etc., mais qui pensent quand même à la maladie. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils sont très proches de nous. Et chaque fois que ma femme a eu de nouvelles crises des métastases à nouveau, parce qu'il faut dire qu'en 10 ans, elle a subi à peu près une quinzaine d'opérations. Donc, elle a subi 4 chimios, 5 radiothérapies. Enfin, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on ne sait pas si le TEP scan va être bon ou pas bon. Donc, on n'est jamais tranquille. Et mes enfants, ce sont des éponges, c'est normal. Hein. Donc, ils ressentent le besoin de nous dire, de nous parler. On a toujours de parler de tout dans la famille, et plus particulièrement de la maladie. Ça a permis à mes enfants de se libérer un peu, parce qu'on ne leur a jamais caché la maladie, les effets secondaires, la perte des cheveux, la perte des ongles, enfin, tout ce qui s'ensuit au niveau de cette maladie, et qui est vraiment... Bon, au début, terrible, et puis après, on assimile progressivement.
Vous parlez de tous ces effets secondaires. Ça va nous permettre d'aborder un sujet, certes, un peu tabou, mais qui est important. C'est la vie intime du couple qui se trouve forcément chamboulée à l'annonce de la maladie. Et quand la maladie dure comme ça, comment gérer ça ?
Eh bien, il faut communiquer et puis parler. On a eu des moments très durs hein, dans notre couple, 2 ou 3 moments très durs. Parce que la chimio fait que ça induit sur votre caractère. Et puis moi-même, comme en ayant un burn-out, je suis aussi sous traitement. Donc, c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc, il a fallu communiquer. Et à travers les thérapeutes, justement, ça nous a permis de pouvoir nous réévaluer, de pouvoir et puis comprendre un peu les choses. Bon, après, au niveau de l'affectif, c'est sûr que le cancer, c'est pas commode, hein. Vous avez une perte de libido, au niveau sexuel, c'est pas toujours ça, voilà, il faut le savoir, et puis après il faut vivre avec, et savoir vivre avec, et puis...
Et en parler.
En parler aussi, oui, en parler aussi, même entre les aidants, même les personnes âgées, etc., ils ont besoin d'en parler aussi quelquefois, parce que bon, ça fait partie de leur vie intime hein, aussi. Hein, on a tous quelque chose à voir là-dedans. Hein.
Mmh. Alors, vivre auprès d'une personne malade, la soutenir, l'accompagner, comme vous le faites, sur une longue période, c'est très éprouvant tant au niveau physique que psychologique. Voilà, vous avez payé le prix fort. Ici, à la Maison Bien-être, on le rappelle, il est possible aux aidants d'être suivis psychologiquement, en tout cas. Donc, pas d'accès aux activités sportives qui sont proposées aux malades. Mais psychologiquement, oui, c'est possible. Vous parliez d'Amina qui vous suit. Vous venez à quel rythme vous la rencontrez
Normalement, je rencontre tous les 15 jours. Donc, c'est assez régulier. Et puis, on se parle en toute décontraction. On n'est pas obligé de parler de la maladie. On n'est pas obligé de parler de la maladie de ma femme. Je parle de moi. Je parle de mes enfants. Je parle on peut parler de tout, politique, cinéma, théâtre. C'est vraiment très ouvert. Et ça permet de, quelquefois, vous libérer d'un poids. Parce que quand vous essayez de communiquer avec... moi, j'ai vu avec mes amis, il y a une barrière qui se crée quand la maladie apparaît. Et on n'a plus les mêmes contacts aussi avec autant de facilité de pouvoir parler de tout et de rien. Parce qu'il y a la maladie entre nous. Et c'est terrible, hein. Mais même avec ma famille, mes sœurs et ma mère, hein, la problématique, c'est qu'on a du mal à en parler. Et surtout, eux ont du mal à venir vers nous parce que la mort, elle est là. Enfin, il y a quelque chose qui vous arrête. On se dit, il y a quelque chose au bout. Et bon, quand même, elle est terriblement jeune quand elle a débuté sa maladie. Ça fait peur.
C'est la mort qui rôde et le tabou un peu de cette maladie.
Le tabou, on le lève progressivement. Les médecins essayent d'en parler le plus possible. Nous, on a des médecins. On a été entourés. Ça a été formidable pour nous. Ma femme a choisi l'hôpital Saint-Joseph pour être soignée. Et ça lui a permis d'être accompagnée par des soignants, par des infirmiers, par des infirmières et des docteurs qui sont au top. Hein. Je les remercie parce que grâce à eux, grâce à ici à la Maison Bien-être aussi, ça a permis qu'on soit vivant. Vivant pour moi parce que je peux le dire et vivant pour ma femme aussi.
Est-ce que je peux me permettre de prendre de ces nouvelles ?
Eh bien, écoutez, là, aujourd'hui, elle est en chimio toute la journée et apparemment, la chimio a fonctionné. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'elle va devoir continuer encore un moment. C'est comme ça, c'est notre vie.
Et est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous allez, vous ?
Moi, je vais bien mieux depuis quelques temps. Pas longtemps, depuis quelques semaines, ça va bien mieux. Parce que je sens que ma femme va mieux, que mes enfants sont moins soucieux. Ça me permet de libérer mon corps et mon âme, on va dire. Hein, parce que c'est vraiment très difficile physiquement. Parce que physiquement, on s'en aperçoit pas. Mais moi, je suis toujours en train de porter quelque chose... parce que ma femme ne peut pas rien porter. Donc, je me suis cassé le dos aussi. Donc, physiquement, il faut faire attention à soi. Mais c'est vrai que les aidants, moi, je les encourage à venir à la Maison Bien-être pour pouvoir parler, juste pour voir un sourire et pour se dire que, bon, il y a une présence, hein, pour les aidants.
Ici, on peut les aider, les accompagner. Il faut qu'ils ne s'oublient pas. On l'a déjà dit, on le répète. Il y a un médecin de santé publique qui a écrit le livre « Les aidants, c'est invisible ». C'est le docteur Hélène Rossino qui a dit « Les aidants sont la colonne vertébrale invisible des systèmes de santé ». Je crois que tout ce que vous venez de nous dire, c'est ça.
Eh oui, quand il y a la maladie, il faut qu'il y ait cette colonne vertébrale pour pouvoir soutenir toute la famille, hein, parce que c'est un soutien de toute une famille, hein, quand on est des enfants jeunes. Après, on essaye de rebondir et voilà.
Quand je vous vois avec ce magnifique sourire, je me dis que c'est le cas, vous avez rebondi. Merci mille fois pour ce témoignage.
C'est moi qui vous remercie, Caroline.
Merci.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.